Et donc pour essayer simplement de prendre un petit peu de recul par rapport à cette bataille de standards, pourquoi est-ce que... Alors on en retrouvera d'autres, évidemment on ne les détaillera pas autant, hein, mais on en retrouvera d'autres dans le cadre du cours. Pourquoi est-ce que je leur donne une telle importance dans un cours de management stratégique de l'innovation? Bah, parce que aujourd'hui, les standards technologiques jouent un rôle extrêmement important, hein, dans un monde très numérisé, très interconnecté. Eh bien, évidemment, les standards vont jouer un rôle important puisque c'est justement ce qui permet à des équipements de s'interconnecter, en fait, hein. Du coup, c'est vrai que ça joue un rôle très important, à la fois pour les entreprises qui jouent vraiment la guerre des standards. Donc là, souvent, ce sont plutôt des grandes entreprises. Bon, il y a parfois des standards plus spécialisés, hein, sur lesquels... Alors, je ne suis pas allé encore voir leur site, mais vous voyez, ce matin, je discutais avec des collègues de futurs ateliers de recherche qu'on allait proposer. Et l'un d'eux, qui est vraiment spécialiste du numérique et avec une orientation plus technologique, me disait que il y avait un certain nombre de sociétés qui étaient en train de se spécialiser dans la structuration des données pour l'IA. Une entreprise comme Dawex, c'est une de celles qui a été citée. Typiquement, c'est pas une grosse entreprise, c'est pas un Sony, c'est pas un Intel, etc. Et pourtant, elle se retrouve en plein milieu d'enjeux de standards. Voyez. Donc, ça veut dire que dans de futures startups dans lesquelles vous êtes, vous pouvez très bien vous retrouver au cœur de batailles de standards. Donc, soit comme ça, vraiment en plein cœur, soit sinon, de toute façon, devoir choisir vos standards, même si ce n'est pas vous qui les portez. Donc, pouvoir anticiper lequel va l'emporter, ça peut être important dans beaucoup de domaines, et notamment tout ce qui est numérique et télécommunication. Alors, juste quelques exemples, parce qu'en plus, il y a plusieurs niveaux de standards. Du coup, quand on dit un PC, alors ça peut vouloir dire ordinateur personnel de façon générale, hein, de façon générique, mais sinon, c'est un standard qui est né avec l'IBM PC en 1981, et avec lesquels nos ordinateurs, si ce n'est pas des Mac, sont censés être toujours compatibles. C'est-à-dire, c'est normalement, vous pourriez... Alors bon, il y a eu tellement de versions qu'à mon avis, il y a eu un peu de perte de compatibilité quand même, mais en théorie, on devrait pouvoir faire fonctionner sur un PC d'aujourd'hui un logiciel qui a été conçu pour le MS-DOS en 1982. Et c'est la même chose dans le camp du Macintosh, où les Mac d'aujourd'hui sont censés pouvoir faire tourner les vieux programmes pour Mac. Et donc le PC dans son ensemble, on va considérer que c'est un standard. Mais en même temps, c'est un standard qui est constitué d'une multitude de standards. Par exemple, on a décidé que... le principal moyen d'échanger des données avec des périphériques branchés à l'extérieur, ce serait l'USB. Donc ça a été un choix, et l'USB, c'est un standard. Le Wi-Fi, c'est un standard. Et encore, quand je dis un standard, à chaque fois, vous avez des versions. Vous savez, il y a USB 2, USB 3, etc. Wi-Fi, je crois qu'on en est à la version 6. Le GSM, qui est la norme de téléphonie mobile en Europe. Alors là aussi, hein, ce qu'on appelle 2G, puis 3G, puis 4G, puis 5G, ce sont des évolutions. Alors elles portent elles-mêmes le nom. Je crois que LTE, d'ailleurs, c'est une d'entre elles. Elles ont leur propre nom, mais en fait, ce sont des descendants du standard GSM. Le DVD, c'est un standard et on aura l'occasion de le rencontrer. Le Blu-ray, c'est un standard. Et puis, bah, donc, ce qu'on appelle 5G, en fait, c'est un standard. Souvent, elles ont des noms rigolos. 3GPP ETSI. Donc, ETSI, c'est la clôture de normalisation européenne. Hein. Et puis 3GPP, c'est le nom de cette version de la norme. Alors, voyez avec ce dernier exemple que dans un certain nombre de cas, les standards vont être choisis par des organismes spécialisés qui peuvent être soit des organismes privés, par exemple W3C pour certaines normes du web. Donc c'est en fait un organisme, une sorte de consortium des principaux acteurs du web. Et puis vous en avez d'autres qui sont sous contrôle des États ou interétatiques comme l'ETSI. Donc quand c'est un standard comme ça qui est défini par un organisme, même, alors normalement on devrait réserver l'appellation de droit, hein, de jure, ça veut dire de droit, lorsqu'il s'agit d'organismes étatiques, mais en réalité on va considérer que c'est un standard de droit quand voilà, il y a un organisme qui dit bah, la norme c'est ça. Et que bah, les acteurs s'y conforment. Et d'autres vont s'imposer par le marché. Hein, il n'y a pas, à un moment donné, un organisme qui a dit bah, un micro-ordinateur, ça doit correspondre au standard du PC ou éventuellement du Mac, et on ne veut pas des autres. Hein, c'est le marché qui a procédé par élimination et qui a fait que. Il y en a un qui s'est principalement imposé, qui a un petit challenger. Un petit challenger qui d'ailleurs s'est largement à un moment donné aligné en fait sur les normes du PC. Il y a des éléments un peu voyants qui différencient un PC d'un Mac. Mais si vous soulevez le capot, la plupart des autres éléments répondent au même standard pour le coup. Et donc, quand c'était un standard qui s'est imposé par le marché, comme ça a été le cas pour le VHS contre le Betamax, on va dire que c'est un standard de fait, hein, où on dit souvent de facto. Voilà. De temps en temps, enfin, on verra plus d'anglicisme que de latinisme, hein, dans les cours de management de l'innovation, mais là, en l'occurrence, on utilise souvent le latin. Et alors, il y a un phénomène qui est très important et qui est largement à l'origine des standards technologiques. C'est le phénomène dit des externalités de réseau. Donc, on va s'attarder un tout petit peu sur ce phénomène-là parce qu'il est important et il faut le maîtriser en management d'innovation, même quand on n'est pas concerné par des standards technologiques. C'est-à-dire que, à la fois, c'est ce qui va expliquer l'existence de standards de facto, en grande partie, mais en même temps, on peut être concerné par ces externalités de réseau, même si on n'est pas en présence de batailles de standards. Alors, qu'est-ce que c'est que ces externalités de réseau? C'est un phénomène par lequel la valeur d'un produit, d'un service, d'une technologie, d'un standard, augmente avec le nombre de ses utilisateurs. Hein? Plus on a d'utilisateurs, plus la valeur on va dire de la technologie pour faire simple, mais vous voyez, ça peut être un produit, va augmenter. Alors, en général, on voit plutôt les choses dans l'autre sens. C'est plus le produit a de valeur, plus il va avoir d'utilisateurs. Là, on parle d'effet de feedback, hein, de rétroaction en bon français, c'est-à-dire qu'on a aussi une flèche qui va dans l'autre sens et qui fait que le nombre d'utilisateurs donne de la valeur au produit. Alors, les plus évidentes, c'est ce qu'on appelle les externalités de réseau directes. C'est celles qui font que c'est vraiment directement le nombre d'utilisateurs qui donne de la valeur au réseau. Quel serait l'intérêt d'avoir un email si personne d'autre n'en avait? Vous voyez que ce serait nul. S'il y avait deux personnes dans le monde qui avaient une adresse email, la probabilité qu'ils se connaissent serait assez faible et donc la valeur de la technologie serait à peu près nulle. Puis après, plus vous avez d'utilisateurs de l'email et plus c'est intéressant d'en avoir. D'en avoir. Alors j'allais dire une, mais. Parce que je pensais à adresse email, mais et puis peut-être le plus évident dans les phénomènes récents, actuels, c'est les réseaux sociaux. Quel est l'intérêt de partager une vidéo sur un réseau sur lequel il n'y a pas d'autres utilisateurs? Donc imaginez TikTok avec un seul utilisateur, aucun intérêt. Voilà. Je souris parce que j'ai un autre type d'exemple qui pourrait être pris, mais bon, on est moins dans l'externalité pure. Mais ce qui m'est venu en même temps que je disais quel est l'intérêt d'avoir TikTok avec un seul utilisateur, je me suis dit quel est l'intérêt d'avoir un bel espace de cours partagé avec de magnifiques slides dessus et un seul utilisateur. Vous voyez, donc c'est ça qui m'a fait sourire. Après, là, vous pourriez me dire, oui, bon, ok, alors ça concerne tout ce qui est réseau, ça concerne éventuellement quelques appareils physiques comme le téléphone, le fax, etc., qui effectivement n'ont d'intérêt que s'il y en a d'autres qui le possèdent. Mais finalement, c'est assez limité. Il n'y aurait pas de quoi faire tout un zoom sur un cours de management de l'innovation sur le phénomène s'il ne concernait que ces produits-là. Même si on voit que pour ces produits-là, c'est extrêmement important et même si beaucoup de projets d'aujourd'hui sont, si je prends les projets entrepreneuriaux de mes étudiants entrepreneurs, il y a beaucoup de plateformes de mise en relation, ce genre de choses qui sont extrêmement sensibles aux externalités de réseau. En plus, parfois avec des externalités de réseau à deux faces. Vous voyez, il vous faut, si vous voulez proposer, disons par exemple, une plateforme de prise en rendez-vous, de rendez-vous pour avec les médecins ou les personnels, enfin les libéraux en santé. Il faut qu'il y ait à la fois suffisamment de patients qui soient sur la plateforme pour que ça soit intéressant pour les médecins, parce que si leurs patients ne sont pas sur la plateforme, ils seront quand même obligés d'avoir un secrétariat à côté pour prendre des rendez-vous de ceux qui ne sont pas sur la plateforme. Et il faut qu'il y ait suffisamment de médecins sur la plateforme pour que ça soit intéressant pour les patients, parce que si votre médecin n'est pas sur la plateforme, voilà, l'intérêt d'y être est moindre. Et donc, vous voyez qu'il faut réussir à lancer ces externalités de réseau des deux côtés, en même temps. Même dans le cas d'autres produits, il va y avoir aussi des externalités de réseau, alors plus ou moins fortes, hein. Vous avez des produits à très faible externalité de réseau, et vous avez des produits à très forte externalité de réseau, mais vous avez donc aussi ce qu'on appelle des externalités de réseau indirectes. Et elles sont liées au fait que on va plus proposer de produits et de services complémentaires pour des produits qui ont une base installée importante. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, à partir de ce moment-là, il y a eu plus de magnétoscopes VHS que de magnétoscopes Betamax installés aux États-Unis. Et du coup, les studios de cinéma avaient plus intérêt à sortir leurs films en VHS qu'en Betamax. Et évidemment, s'il y a une collection plus importante de films en VHS qu'en Betamax, ça incite plutôt à acheter un magnétoscope VHS. À un moment donné, le Betamax avait, je vous l'ai dit, un avantage en la matière, mais à ce moment-là, Ben, ce n'était pas un critère très important pour le consommateur. Et puis, ben, en fait, ils n'ont pas eu non plus beaucoup de chance, puisqu'en fait, c'est devenu un critère important à peu près en même temps que le VHS a pris le dessus sur le Betamax dans ce domaine aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de films en VHS qu'en Betamax. C'est à peu près à ce moment-là qu'ont commencé à se créer un peu partout des clubs de location de cassettes vidéo. Dont on aura l'occasion de reparler, puisque au début, Netflix est né comme un concurrent de ces vidéoclubs. Mais bon, voilà, je vous ai mis à l'exemple, il y a plein de logiciels, plein de périphériques pour PC, parce que il y a plein d'utilisateurs de PC. C'est pour ça aussi qu'on va quand même trouver plus de logiciels pour les PC au sens strict du terme que pour les Mac. Parce que malgré tout, doit y avoir à peu près 15 fois plus d'utilisateurs de PC dans le monde que de Macintosh. Donc, du coup, malgré tout, vous allez écouler un nombre d'exemplaires plus important quand vous faites de la programmation pour le PC. Ou de la même façon, si vous avez plein de plateformes de streaming musical, bah pour une maison de disques, vous allez dire bah c'est extrêmement important d'être sur celles qui ont le plus grand nombre d'utilisateurs, comme Spotify par exemple. Vous pourrez vous poser des questions s'il y a des plateformes de streaming plus secondaires. Mais du coup, vous allez aussi avoir plus de titres sur les plateformes sur lesquelles il y a plus d'utilisateurs. Du coup, ça les rend d'autant plus intéressantes. Et puis, bah, ce qui est vrai pour les produits, c'est vrai aussi pour les services, hein. D'ailleurs, quelque part, les titres sur une plateforme de streaming, c'est déjà du service. Ah, mais du coup, je prends aussi l'exemple de, bah, aujourd'hui encore, quand même, c'est plus facile de recharger sa voiture en carburant qu'en électricité. Donc, ça peut jouer dans l'avantage des voitures thermiques sur les voitures électriques. D'ailleurs, il a fallu, pour justement lancer ces externalités de réseau, qu'il y ait un investissement public, en fait, hein, pour équiper la voie publique de bornes de recharge, de manière à atténuer ce désavantage. Enfin, va jouer aussi l'accès à l'information, en ce sens que bah, notre accès à l'information, il est forcément un peu limité, hein. Si je vous demandais de me faire une liste de tous les traitements de texte qui existent sur PC ou sur Mac, bah, je suis persuadé que vous m'en feriez chacun une liste de 3 ou 4, alors qu'il en existe probablement des dizaines. Mais simplement, bah voilà, on pense très spontanément à Microsoft Word, on va penser en général à OpenOffice, à la suite de Google, puis voilà, après les autres sont plus confidentiels. Donc, du coup, ça veut dire qu'au moment où vous dites, tiens, comment je vais m'équiper en traitement de texte, bah, il y a plein de possibilités auxquelles vous ne penserez même pas, puisque vous ne les connaissez pas. Et qu'il n'est pas facile de trouver de l'information dessus. Puis après, vous pouvez combiner information et service, par exemple. C'est très facile de se former à Excel ou à Microsoft Word. C'est plus difficile si vous utilisez un logiciel qui est peu diffusé. Vous allez trouver moins facilement des tutoriels, etc. Et puis donc, ces phénomènes d'externalité de réseau au sens strict, hein, direct et indirect, viennent s'ajouter à un phénomène qui est connu depuis plus longtemps. Les externalités de réseau, ça a été théorisé, alors maintenant, ça vous paraît très vieux si je vous dis au milieu des années 80, mais en fait, à l'échelle bah, des théories qu'on va mobiliser dans ce cours, c'est quand même relativement récent. Par exemple, les économies d'échelle, le phénomène a été identifié dès la fin du 19e siècle, donc pratiquement un siècle avant. Donc les économies d'échelle, simplement les économies qu'on fait du fait de la quantité fabriquée. Ça se traduit aussi, alors je fais autant normalement les économies d'échelle, je pense que vous êtes censés tous connaître. J'ai une petite parenthèse sur le concept de courbe d'expérience, parce que c'est peut-être pas connu de tous. Une théorie, mais qui a été observée dans un grand nombre de secteurs, hein, qui dit que les coûts de fabrication d'un produit vont diminuer d'un facteur constant à chaque fois que la production cumulée du produit depuis le début, hein, depuis son industrialisation, double. Donc, ça veut dire que, au fur et à mesure de la production, d'une part, généralement, quand on le combine à la théorie du cycle de vie du produit, on voit qu'on a généralement à un moment donné une production qui est supérieure, donc des économies d'échelle. Mais par ailleurs, ça vient se combiner à ce qu'on appelle des économies d'apprentissage ou un effet d'apprentissage, parce que on va perfectionner de manière permanente ces processus de fabrication. Là, on va toujours au début commencer en mettant en place ce qui nous paraît être la meilleure solution, et puis on ne va pas cesser de perfectionner son processus. Et donc, on voit que plus un produit a une production importante, et plus il va descendre rapidement cette courbe. Si bien que si à un moment donné, par exemple dans une guerre des standards, mais même dans un cas plus courant, l'un des produits vient à se vendre bien, et ben ça va faire baisser son coût. La baisse du coût permettra de baisser les prix, ce qui permettra d'accéder à un nouveau segment de clientèle, et ainsi de suite. Hein, à un moment donné, pour toujours rebondir sur notre exemple du VHS et du Betamax, à un moment donné, comme il se vendait plus de magnétoscopes VHS, le prix des magnétoscopes VHS est aussi descendu en dessous du prix des magnétoscopes Betamax. Même si là, l'effet était un peu réduit par le fait que une partie des composants était de même nature. Donc, du coup, la différence entre les deux était moindre. Mais néanmoins, les magnétoscopes VHS ont fini par avoir un avantage en matière de prix. Donc, si je le représente sous forme de schéma, on voit que si j'ai plus d'utilisateurs dans un certain nombre. Alors oui, non, j'allais démarrer par l'autre côté. Mais donc ça c'est classique, des coûts de production plus faibles, toutes choses égales par ailleurs. Hein, donc ça permet une baisse des prix qui permet d'avoir davantage d'utilisateurs. Donc ça c'est la première partie du cercle vertueux. Mais par ailleurs, il y a les fameuses externalités de réseau, donc qui vont faire que dans un certain nombre de cas, l'utilité, au sens utilité pour le client ou le consommateur, hein, au sens économique du terme, va augmenter. Alors ça, c'est quand il y a des externalités de réseau directes, mais quand il y a pas d'externalité, même quand il n'y a pas d'externalités de réseau direct, et bien vous allez avoir des cas où vous allez avoir plus de produits et services complémentaires. Hein. Là, je n'ai pas fait deux cercles différents pour les produits et les services, je les mets dans le même rond. Et ce sont ces produits complémentaires qui vont augmenter l'utilité du produit principal. Et donc, ça va augmenter le nombre d'utilisateurs. On voit que c'est ce cercle-là qui va se mettre en route, par exemple, pour le magnétoscope VHS. Comme il se vendra de plus en plus de magnétoscopes VHS, le prix hors inflation, hein, le prix réel du magnétoscope VHS va diminuer. Et en parallèle, il y aura de plus en plus de films disponibles pour les magnétoscopes VHS qui en augmentent l'utilité. Alors, si je reviens à mes batailles de standard, on a deux cas de figure principaux. Le premier, c'est quand un standard va chercher à se substituer à un autre standard Et ça, en général, c'est un standard plus performant qui cherche à se substituer à un autre. Ça ne garantit pas le succès. Hein, donc, par exemple, à un moment donné, on pensait que les puces RFID, vous savez, c'est les puces à très faible consommation d'énergie, qu'on voit quelques informations, allaient se substituer au code barre. Et que donc, bah, tous les emballages de produits auraient une petite puce RFID, et que du coup, bah, il n'y aurait plus besoin de passer un scanner avec un code barre à la caisse d'un supermarché, hein, mais que bah, tous les produits enverraient directement à la caisse les informations nécessaires bah, sur le prix notamment. Et puis, bah, cette substitution n'a pas eu lieu pour différentes raisons. Et parmi les raisons, il y a parfois bah, une forme justement de ce qui peut paraître plus performant dans un sens, nécessite dans un premier temps des investissements, y compris en temps. On sait par exemple que le type de clavier qu'on a n'est pas du tout le type de clavier le plus performant, hein. Le clavier QWERTY aux États-Unis et dont on a un dérivé en France. Il est pas si différent. En fait, il avait été conçu pour ralentir la vitesse de frappe sur les machines à écrire et pour que les lettres qu'on tapait le plus souvent l'une après l'autre soient les plus distantes possibles. Parce que sur les premières machines à écrire, ceux qui tapaient trop vite provoquaient un emmêlement des marteaux. Si vous pouvez regarder comment fonctionnait une machine à écrire avant, vous voyez que c'est des marteaux qui venaient taper la feuille. Et donc si vous alliez trop vite, bah, il y avait le marteau qui était en train de revenir à sa place qui rencontrait le marteau qui était en train de partir. Et donc le clavier a été conçu pour ça. Donc inutile de vous dire que ce n'est pas le plus performant imaginable. Il y en a eu d'autres plus performants qui ont été imaginés depuis. Et pourtant, encore aujourd'hui, alors que ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus de problème de marteau qui s'entremêle, hein, et ben on a toujours ces claviers-là. Simplement, ben on a tous appris à taper sur des claviers AZERTY. Et donc, du coup, s'il fallait changer demain, là, et qu'on mettait un clavier Dvorak, par exemple, c'est un des claviers performants qui ont été mis au point, bah, dans un premier temps, et sûrement pendant des semaines, je taperais beaucoup plus doucement. Et je ferais plein d'erreurs. Je taperais des D à la place des A. Et puis, bah, vous avez le cas où un ou plusieurs standards de même génération se disputent un marché émergent. Alors, le marché pour VHS contre Betamax n'est pas vraiment nouveau. En fait, il est tellement sous-développé par rapport à son potentiel qu'on peut considérer que c'est presque comme si c'était un nouveau marché. Et puis, bah, vous avez le cas un peu intermédiaire, hein, où vous avez, par exemple, deux standards qui sont en concurrence pour en remplacer un autre. Et ça, on aura l'occasion de le voir avec la bataille Blu-ray contre HD-DVD pour remplacer le DVD. Alors, pourquoi c'est important? Ben d'abord parce que le fait d'être le patron un petit peu d'un standard, ça donne un avantage. Le principal est probablement en termes d'anticipation. Parce que bah, c'est vous qui allez savoir avant les autres comment va évoluer le standard, si bien qu'évidemment vous allez vous adapter plus facilement, puisque c'est vous qui allez impulser les changements, alors que les autres vont les subir. De même, souvent, bah, les changements en question, vous allez les faire en sorte qu'ils correspondent très bien à vos compétences, hein. Et enfin, dans beaucoup de cas, comme vous allez accorder des licences, vous allez toucher des royalties sur les licences en question. Alors, on y reviendra dans les stratégies pour imposer un standard. Si vous êtes trop gourmand, par contre, en termes de redevances, ça peut avantager l'autre standard, évidemment. Et puis, même quand on n'est pas chef de file, parce que là encore, on pourrait dire, ouais, mais OK, chef de file, ça concerne que peu d'entreprises, ben, faire le mauvais pari. Ça peut coûter cher. Et donc, bah, par exemple, Toshiba a d'abord essayé de lancer son propre standard sans succès. Après, il s'est rallié au Betamax. Donc, les pauvres, ils ont vraiment fait les mauvais choix à chaque fois. Le résultat, c'est qu'alors que c'est un des leaders du marché du magnétoscope dans les années 60, hein, c'est vraiment enfin, voilà, c'est un des rivaux, enfin, c'est une des entreprises majeures. Du marché, eh bien, il va quasiment disparaître du marché. On va le voir réapparaître avec le DVD. Alors, maintenant, quelles stratégies sont susceptibles de permettre à une entreprise d'imposer un standard? Que je vous propose, c'est comme c'est pour tomber sur une slide complète, on va dire quelques mots du cas des standards de droit, et puis on va garder pour la prochaine séance les stratégies pour imposer un standard de fait, parce que bah, ce serait un peu long, je dépasserai un petit peu trop. Mais là, c'est assez rapide parce qu'en gros, sur les standards des jurés, on va être sur des actions de lobbying. En fait, les entreprises vont participer à. Alors, il faut réussir à se faire intégrer dans les ateliers de réflexion parce que même les organismes nationaux, hein, en règle générale, bah, évidemment, ils vont pas hop tout seul dans le vide, dire ah ben tiens, on a édicté une règle. Donc, ils vont le faire en relation avec des industriels du secteur pour s'assurer que leur norme, elle est réaliste, que des entreprises vont bien pouvoir proposer des produits qui correspondent à la norme, que ce sera à des coûts raisonnables, etc. Donc, ils sont bien obligés de discuter avec les industriels pour pouvoir établir les normes. Et donc, bah, évidemment, dans ces discussions, les industriels vont essayer de placer leur pion, entre guillemets. Et donc, voilà, il va falloir le faire en ne présentant pas les choses, évidemment, comme si c'était quelque chose où on cherchait à se favoriser soi-même, hein. On essaye de montrer pourquoi c'est plus rationnel, pourquoi ça coûterait moins cher, pourquoi ce serait plus fiable, pourquoi. Donc on va utiliser des arguments rationnels, mais pour pousser ses propres normes. Donc voilà, ce sera vrai aussi bien du point de vue des agences de normalisation nationale ou européenne, hein, que ce soit d'organisations professionnelles comme je l'ai cité tout à l'heure, hein, le World Wide Web Consortium ou W3C qui édicte une partie des normes de l'Internet. Il y a d'autres organismes qui édictent d'autres parties des normes de l'Internet. Et puis cette norme de droit peut dans certains cas ne pas imposer la norme, dans certains cas c'est obligatoire, hein, il faut se conformer à tel. Et dans d'autres cas, bah, ça va simplement la favoriser. Et là vous pouvez avoir des jeux nationaux pour essayer de faire en sorte que sa norme s'impose dans le monde. Voyez, et dans ces cas-là, on est un peu à la limite entre le standard de fait, puisqu'au bout du compte, on va laisser faire le marché, et le standard de droit, puisque bah, par exemple, je ne sais pas, on va attribuer des longueurs d'onde, par exemple, sur de la téléphonie mobile qui vont favoriser tel ou tel type de standard. Donc, vous voyez, vous n'interdisez pas les autres. Mais en pratique, vous favorisez fortement celui de vos champions nationaux ou régionaux. Voilà, donc ça, c'est des choses qui se font très, comment dire, très couramment. Voilà, bah, comme je vous l'ai dit, hein, pour les standards de facto purs et durs, on va laisser ça pour la prochaine fois parce que ce serait un peu long quand même pour cette fois-ci. Et donc, bah, vous savez de quoi nous parlerons la prochaine fois. C'est la semaine prochaine parce que j'avais des empêchements des différentes soirées, dont demain, souvenez-vous qu'il y a le matching day du BioLaunchpad. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés, du coup. Voilà. Et donc, j'espère que d'ici là, vous aurez accès au e-campus. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée.